Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainard Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, rédigé en 1934 par Simone Veil. Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale est un essai de philosophie politique et sociale, publié après la mort de son autrice. Veil y examine une question plus exigeante que la simple opposition entre régime libre et autoritaire par quel mécanisme les êtres humains perdent-ils réellement la maîtrise de leur existence collective. Son analyse porte sur le travail, la technique, les institutions, la guerre et les rapports de pouvoir. Elle refuse de réduire l'oppression à la mauvaise volonté de dirigeants ou à une seule classe sociale. Selon elle, des structures productives et administratives peuvent acquérir une logique propre devant laquelle dominants et dominés deviennent également dépendants, quoique de façon très inégale. Le livre confronte aussi les promesses révolutionnaires aux contraintes matérielles qui limitent toute transformation sociale. Dans ses critiques, il ne propose pas un programme clé en main. Il cherche plutôt les conditions concrètes d'une liberté compatible avec les capacités réelles du corps et de l'esprit humain. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'oppression comme effet de mécanismes socio-impersonnels, où il déplace l'analyse de l'oppression du terrain moral vers celui des mécanismes. Il ne suffit pas, selon elle, de dénoncer la cruauté des puissants. Car une société peut produire de la contrainte même lorsque ses membres se croient guidés par des objectifs rationnels ou généreux. La division du travail, la compétition économique, la hiérarchie administrative et les exigences de coordination à grande échelle créent des rapports dans lesquels chacun dépend de décisions, de rythmes et de finalités qui lui échappent. Cette perspective ne nie pas la responsabilité des personnes, mais elle interdit de croire qu'un changement de personnel suffirait à libérer la société. Un chef peut être remplacé sans que la structure qui exige commandement, obéissance et rendement disparaisse. Veil insiste ainsi sur la force comme réalité sociale, elle transforme celui qui l'a subi en instrument et enferme souvent celui qui l'exerce dans la nécessité de la conserver. Son enquête vise donc les conditions objectives qui rendent la domination durable. Cette attention aux médiations concrètes distingue son essai des discours qui expliquent toute servitude par une faute individuelle, une idéologie isolée ou une conspiration. Elle oblige à demander comment une institution fonctionne réellement, qui contrôle ses moyens et dans quelle mesure ses participants comprennent les conséquences de leurs actes. Deuxièmement, la grande production et la perte de maîtrise des fins, le développement productif constitue un foyer central de la réflexion veilienne. Dans une économie moderne, les moyens techniques, financiers et organisationnels tendent à devenir si complexes que les fins humaines initiales passent au second plan. Produire davantage, coordonner des opérations immenses, respecter des délais ou maintenir la puissance d'une appareil peuvent alors devenir des impératifs autonomes. Les personnes ne règlent plus consciemment ces instruments. Elles adaptent leur conduite à leurs exigences. Veil ne présente donc pas la machine comme un ennemi abstrait. Le problème réside dans une organisation où la technique impose ses cadences, fragmente les tâches et sépare l'exécution de la compréhension. Le travailleur risque de ne plus voir ni la finalité de son activité, ni le lien entre son geste et l'ensemble de la production. Mais les cadres eux-mêmes peuvent dépendre de contraintes économiques et administratives qui dépassent leur volonté. Cette analyse permet de comprendre pourquoi le progrès matériel ne garantit pas la liberté. Une amélioration des capacités de production peut au contraire renforcer la subordination si le savoir, les décisions et les instruments restent concentrés. La question politique décisive devient alors celle du contrôle effectif des processus productifs, et non la seule propriété formelle ou la seule abondance des biens. Troisièmement, la critique du progrès fondée sur l'échelle humaine, où elle relie l'oppression moderne à une disproportion entre les dimensions des systèmes sociaux et les facultés limitées des êtres humains. Le corps possède une endurance finie, l'esprit une vitesse de compréhension limitée, et une vie humaine ne peut absorber sans dommage des exigences sans mesure. Lorsqu'une organisation se déploie à une échelle qui rend ses enchaînements invisibles à ceux qui y participent, elle favorise la passivité et la dépendance. Cette idée donne à sa critique du progrès une portée précise. Elle ne consiste pas à regretter indistinctement le passé, ni à condamner toute science. Elle demande que les techniques et les institutions soient jugées selon leur rapport aux possibilités concrètes de comprendre, agir et coopérer. Une administration très étendue peut paraître efficace tout en privant les individus de prise sur les décisions. De même, une production accélérée peut multiplier les biens tout en détruisant l'intelligence du travail. Veil invite ainsi à distinguer puissance collective et liberté. La première augmente les moyens disponibles. La seconde suppose que les personnes puissent saisir les rapports essentiels entre leurs actes et leurs effets. Cette exigence d'échelle humaine est aussi une critique de la fascination pour les chiffres, les plans et les abstractions. Ceux-ci deviennent oppressifs lorsqu'ils effacent les conditions sensibles et temporelles de la vie humaine. Quatrièmement, la révolution ne supprime pas automatiquement les rapports de domination. L'ouvrage se caractérise par une mise à distance des espoirs révolutionnaires qui promettent une libération rapide par la prise du pouvoir ou par un changement de propriété, où elle partage le refus de l'injustice sociale. Mais elle interroge sévèrement les présupposés des doctrines, qui imaginent une société affranchie de la domination sans analyser les contraintes de son fonctionnement. Si une économie demeure centralisée, si la coordination repose sur une bureaucratie séparée, ou si la survie collective exige une mobilisation permanente, de nouvelles formes de commandement peuvent se substituer aux anciennes. Cette objection vise moins un camp précis qu'une illusion générale, celle selon laquelle le vocabulaire de la liberté garant en réalité de la liberté. Pour Wilde, il faut examiner les conditions matérielles du pouvoir, les compétences concentrées, la circulation de l'information et la possibilité réelle de contrôle par ceux qui exécutent le travail. Son propos conserve une dimension tragique, car elle ne prétend pas éliminer toute nécessité sociale. Les êtres humains doivent produire, se défendre et s'organiser. Cependant, reconnaître ces nécessités évite de les déguiser en émancipation. La politique devient plus lucide lorsqu'elle cherche à limiter les pouvoirs qui se constituent inévitablement, plutôt qu'à sanctifier un pouvoir nouveau au nom d'une avenir supposé libérateur. En dernier lieu, la pensée attentive comme espace fragile de liberté. Face à des déterminations sociales puissantes, Wilde ne définit pas la liberté comme une indépendance absolue ou comme la satisfaction illimitée des désirs. Elle accorde une place décisive à la pensée, entendue comme attention aux réalités, aux limites et aux relations de cause à effet. Penser librement exige de ne pas se laisser emporter par les mots d'ordre, les mythes politiques ou les représentations flatteuses que les groupes construisent sur eux-mêmes. Cette liberté intérieure demeure fragile, car la fatigue, la peur, la routine et la pression collective peuvent altérer le jugement. Elle ne remplace donc pas une réforme des institutions. Une conscience isolée ne suffit pas à corriger une organisation qui soumet les corps et les esprits à des contraintes continues. Mais sans effort de lucidité, les réformes risquent de reproduire ce qu'elles combattent, faute de comprendre les mécanismes à l'origine de la servitude. L'attention a ainsi une fonction politique indirecte, mais essentielle, elle permet de regarder le travail, le pouvoir et la technique sans les idéaliser. Chez Wilde, la liberté ne se mesure pas seulement à des droits proclamés. Elle se reconnaît à la capacité de discerner ce qui commande nos actes et de maintenir un rapport réfléchi aux nécessités auxquelles nul ordre social ne peut entièrement échapper. En conclusion, réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale convient aux lecteurs de philosophie politique, de théorie sociale et d'histoire des idées, ainsi qu'à ceux qui cherchent des outils pour penser le travail, la bureaucratie et la technique sans se contenter de slogans. Ils demandent une lecture lente, le raisonnement est serré, les conclusions souvent inconfortables, et Wilde ne fournit ni recettes institutionnelles immédiates, ni consolation idéologique. En retour, le livre affine la manière de poser les problèmes. Il apprend à distinguer les intentions proclamées des structures effectives. La puissance technique de la liberté vécue est le remplacement de dirigeants, de la transformation des rapports de domination. Sa valeur intellectuelle tient aussi à son refus symétrique de l'idéalisation du progrès industriel et de la nostalgie, où elle examine les contraintes de la production moderne en partant de ce que les individus peuvent réellement comprendre et supporter. Comparé à des essais politiques plus programmatiques, ce texte se distingue par son exigence de lucidité sur les limites de toute organisation collective. Comparé à des critiques purement économiques, il associe les conditions matérielles du travail à une interrogation sur la pensée, l'attention et la force. Cette articulation donne au livre une portée durable, il aide moins à adopter une doctrine qu'à évaluer les formes concrètes de dépendance qui peuvent se cacher derrière les promesses d'efficacité, de sécurité ou d'émancipation. Si vous souhaitez soutenir Simone Weil, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.